Jésus. Jésus a une activité publique que l'on évalue à 2 ans et demi, au plus 3 ans. Un bip sur l'écran radar de l'histoire. 2 ans et demi ou 3 ans. Et ce qui s'est passé durant ce bref laps de temps a bouleversé l'histoire de l'humanité. Il y a donc eu un événement d'une intensité qui a frappé les témoins et qui a permis, après la mort et la résurrection de Jésus, le développement de ce mouvement qui va embraser l'humanité. Et c'est cette intensité que j'essaye de retrouver pour vous ce soir. Et donc la première question, c'est: que sait-on de la naissance et de l'enfant de Jésus? Vous me dites, ben, il suffit de lire le début de l'évangile de Matthieu et le début de l'évangile de Luc, ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, qui racontent de quelle manière la naissance du Fils de Dieu par le truchement du Saint-Esprit a été communiquée à Marie. Et voilà le récit, ce passage de l'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Et voilà de quelle manière l'iconographie chrétienne, c'est un tableau de Giotto, représente la nativité, Marie la Vierge et l'enfant. Et puis devant, vous voyez Joseph. Joseph, qu'est-ce qu'il faut dire? Le père absent dans l'histoire. Et Joseph qui appuie sa tête lourdement sur sa main en position méditative, à se demander ce qui l'a conduit là. Alors, ma question c'est, que sait-on historiquement de la naissance de Jésus? La foi chrétienne parle d'une naissance par le truchement de l'Esprit-Saint, ce qui est une affirmation de foi totalement respectable, bien entendu. L'affirmation de la foi, c'est l'affirmation de la naissance virginale, qui est une affirmation de foi. Mais historiquement, peut-on savoir quelque chose? La naissance de Jésus est un mystère. C'est un mystère qu'aucun historien ne peut percer. Mais il y a un indice qui nous permet d'aller de l'avant. Et cet indice, il se trouve présent dans l'autre récit d'Annonciation. Parce qu'on connaît surtout dans l'évangile de Luc l'annonce faite à Marie. Mais vous savez qu'il y a dans l'évangile de Matthieu un récit beaucoup moins souvent lu qui est l'annonce faite à Joseph. Et dans l'annonce faite à Joseph, voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolu de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe, et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Joseph a l'intention de répudier secrètement Marie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Marie est la fiancée de Joseph, et dans le judaïsme palestinien du 1er siècle, les conventions sont extrêmement claires et fermes. La fiancée vit chez ses parents, et ça n'est que le jour des noces que le cortège des amis du fiancé va chercher la future épouse et l'amène à la synagogue à son fiancé. Voilà quelles sont les règles. Or, il se trouve qu'avant les noces, Marie est enceinte. Donc, historiquement, ce que l'on peut savoir, c'est que la naissance de Jésus est une naissance hors mariage. Ou si vous préférez, avant mariage. Et ça, effectivement, c'est un phénomène intéressant. C'est la raison pour laquelle Joseph veut répudier Marie. Le Talmud, qui est la somme de l'érudition juive, est très clair à cet égard. Lorsqu'il y a une grossesse, une naissance hors mariage, la femme doit être lapidée. Ou alors, elle doit être répudiée publiquement. Ce sont les deux solutions que la législation juive offrait à Joseph. Joseph, qui est un homme délicat, lui, ne veut pas diffamer publiquement Marie, et donc a décidé de la répudier secrètement. Ce que l'ange du Seigneur, en songe, va le dissuader de faire. Et alors, la question effectivement que je me suis posée, c'est un enfant né hors mariage, hein, que devient-il dans le milieu juif palestinien au 1er siècle? Il y a un nom pour cela, c'est le mamzé. Nous dirions-nous enfant de père inconnu, ou bien enfant naturel, ou d'un mot qui est vraiment peu agréable, bâtard. C'est le mamzé. Et alors j'ai recherché quelle était la condition de vie de l'enfant mamzé. Cette condition de vie est difficile, parce que le mamzé est réputé impur de par sa naissance non licite du point de vue de la Torah. Il est réputé impur. Il est toléré à la synagogue. Jésus va entrer à la synagogue. Il est toléré, mais suspecté. Le mamzer ne peut épouser qu'une mamzerette, c'est-à-dire une fille née aussi comme un enfant naturel. Et ses enfants vont être mamzer jusqu'à la 8e génération. La condition de l'enfant mamzer est une condition lourde. Il n'est pas excommunié, mais il est soupçonné et il est socialement et religieusement marginalisé. Vous me direz, mais est-ce que ce fut véritablement la condition de Jésus? Alors, c'est extrêmement curieux quand on relie avec cette question-là les évangiles. Dans l'évangile de Marc, les habitants de Nazareth, ben oui, les habitants de Nazareth, là où Jésus a vécu son enfance, là où Marie, José et Joseph ont vécu chacun de leur côté avant leur mariage. Ceux qui ont vu le ventre de Marie s'arrondir. Et que disent les habitants de Nazareth? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Non mais au premier siècle, on n'est pas le fils de sa mère, on est le fils de son père. Parce que c'est par le père que passe la bénédiction abrahamique. Ou bien alors dans l'évangile de Jean, les interlocuteurs de Jésus qui lui disent « Ton père, où est-il ?» Ou encore « Nous ne sommes pas, nous, nés de la prostitution. » Vous voyez que l'évangile ou les évangiles portent les traces d'une naissance de Jésus irrégulière. Jésus, l'enfant mamzer. Alors, des légendes juives se sont amplifiées le plus souvent après la mort de Jésus dans des récits qu'on appelle les Toledot Yeshu, et dans cette légende juive qui n'ont aucune valeur historique mais qui sont des légendes polémiques par lesquelles les juifs tentaient de railler les chrétiens dans leur foi en la naissance virginale. Et dans ces Toledot Yeshu, qu'on peut lire d'ailleurs encore aujourd'hui, Marie en fait a été séduite par un officier romain du nom de Ben Pentera, ou, autre version, a été violée par un officier romain né Ben Pentera. Je le répète, ce sont des légendes juives qui n'ont aucune valeur historique. Mais ce sont ces légendes polémiques qui ont couru dans le judaïsme. Et vous voyez que déjà du temps de Jésus, quand les gens de Nazareth disent « N'est-ce pas le fils de Marie ?» Eh oui, ils étaient au courant de l'irrégularité de cette naissance, c'est-à-dire du fait que Jésus était né dans des conditions qui n'étaient pas tolérées par la tour. Jésus l'enfant mamzé, Jésus l'enfant marginal. Est-ce que ça nous permet de comprendre quelques traits de la vie de Jésus? Mais oui, parce que les tensions entre Jésus et sa famille, à un moment donné, les frères et sœurs de Jésus vont le rechercher en disant « il est fou ». Il y a des tensions. Il y a des tensions entre Jésus et sa famille, et ces tensions, il est vrai, peuvent s'expliquer par le fait que Jésus était un peu le mouton noir de la famille. Le célibat de Jésus. Le célibat de Jésus, malgré des récits fictifs et romantiques d'une union amoureuse entre Jésus et Marie de Magdala, aucun évangile ne relate un mariage de Jésus. Ce qui est tout à fait anormal, atypique, mal vu dans le judaïsme, où le mariage et la création d'une famille perpétuent le croissé et multiplié du peuple d'Israël. Jésus est resté célibataire. S'il est resté célibataire, n'est-ce pas précisément à cause de ces conditions dures réservées aux mamzères, qui ne peut épouser qu'une mamzérette et dont les enfants seront mamzères jusqu'à la 8e génération? L'attention de Jésus à tous les marginaux de la société juive. Eh oui, ça c'est quelque chose que les biblistes ont relevé depuis longtemps. Jésus s'est approché de tous ceux qui, dans la société juive, étaient considérés comme les marginaux. Parce qu'il n'y avait pas que les mamzères, non. Les femmes étaient marginales à cause de leur impureté périodique. Les malades étaient marginaux. Parce qu'on considérait les malades comme des impurs. Et parmi les impurs des impurs, les lépreux. Tous ceux qui avaient une profession manuelle, les bergers par exemple, les bergers qui allaient dans les champs, qui touchaient des animaux blessés, qui étaient en contact avec le sang, et qui n'avaient pas l'occasion de se purifier chaque fois qu'ils avaient été en contact avec du sang. Les femmes dites de mauvaise vie, les collecteurs d'impôts qui étaient en relation avec les impies, qui étaient les Romains, et se souillaient à leur contact. Jésus a accueilli tous les marginaux de la société juive palestinienne, les a accueillis à sa table pour concrétiser, pour traduire, pour symboliser l'amour de Dieu, qui est un amour sans discrimination. Oui, c'est à partir de la vision du Dieu de grâce que Jésus le fait. Mais si lui-même était marginalisé, on peut comprendre la grande attention qu'il a eue envers toutes les catégories, tous les groupes marginaux de la société de son temps. Et puis, si vous lisez les évangiles, vous verrez que Jésus, lorsqu'il parle de Dieu, n'utilise jamais qu'un nom, c'est le nom de Père. Notre Père qui est aux cieux. Jésus n'utilise jamais que le nom de Père. Et ce hasard, de la part de celui, justement, en qui on voyait un enfant de père inconnu. Voilà quelques traits qui, me semble-t-il, expliquent et font comprendre quelques traits particuliers qui font comprendre la condition marginale de Jésus. Vous savez, en lisant mon livre « Vie et destin de Jésus de Nazareth », des gens ont dit « il ne faut surtout pas lire ce livre » parce que Margaret raconte que Jésus est né du viol de Marie. Pas du tout. J'ai dit, je répète, comme je vous l'ai dit, ce sont des légendes sans aucune valeur historique. Mais ça prend le soupçon né à cette naissance irrégulière, a donc, je dirais, construit l'humanité de Jésus. Et vous savez, moi je crois, croyant, je crois à l'incarnation, mais si Dieu s'est fait homme, l'homme parfait n'existe pas. L'humain se caractérise par ses forces, par ses valeurs et par ses failles. Et oui, il y avait une faille dans la vie de Jésus. La voici, celle du mamzer. Ma deuxième question, que sait-on de la vie religieuse de Jésus ? L'enfance de Jésus, c'est une enfance, c'est ce qu'on appelait les années cachées. Les années cachées. Parce que les évangiles de l'enfance nous parlent de la naissance de Jésus, et puis il y a à la fin de l'évangile de l'enfant selon Luc, l'histoire de Jésus, l'adolescent à 12 ans, qui est parti, peut-être que ce récit vous dit quelque chose, qui est parti en pèlerinage à Jérusalem. Et lorsque ses parents repartent, ils ne trouvent pas Jésus dans le cortège de rentrée en Galilée, et ils le trouvent discutant avec les sages. Voilà. Mais au fond, de ce que fut l'enfance de Jésus, on ne le sait pas. Ce qu'on peut essayer, c'est de déduire de l'agir du Jésus adulte pour savoir ce qu'il a reçu dans son enfance. Alors, qu'a-t-il reçu dans son enfance ? Jésus élevé dans la foi. Jésus prie, Jésus fréquente les synagogues. À la synagogue de Nazareth même, on lui demandera de prêcher, comme on le demande à tous les laïcs instruits et connaisseurs des Écritures. Jésus participe au pèlerinage. Jésus pratique les rites de la religion juive. Qui les lui a appris ? Non pas la mère, mais le père. Car, dans le judaïsme ancien, c'est le père qui est le garant des valeurs religieuses, et c'est le père qui enseigne à son fils la pratique religieuse. Donc Joseph, le fameux père absent, a doté Jésus non seulement de son éducation religieuse, mais l'a doté également de son métier. N'est-ce pas le charpentier, le tectone en grec ? Et le tectone, c'est l'ouvrier du bois et l'ouvrier du fer. Jésus était ouvrier du bois, ouvrier du fer, à la suite de son père Joseph. Vous voyez l'importance de ce père qu'a eu Jésus. Et puis, Jésus trilingue. Jésus s'adresse en araméen aux gens qui l'écoutent. C'est la langue véhiculaire, l'araméen, d'Israël et des pays qui l'entourent. Mais comme je l'ai dit, à la synagogue de Nazareth, Jésus lit l'Écriture. C'est un passage du livre d'Ésaïe au chapitre 61. L'Écriture est rédigée en hébreu. Ça veut dire que Jésus sait en tout cas lire l'hébreu. Deuxième langue. Et puis Jésus devait parler un peu, baragouiner un peu de grec, parce que dans le judaïsme palestinien au 1er siècle, beaucoup d'hommes parlaient un peu de grec. Pourquoi ? Parce que si on voulait s'entretenir avec des soldats, avec l'autorité politique, ces derniers ne pratiquaient évidemment pas l'araméen. Si on était en relation avec un commerçant, il fallait lui parler en grec. Vous savez, le grec, c'était la langue de tout le monde, comme aujourd'hui, tout le monde baragouine un peu l'anglais pour aller en vacances en Thaïlande. Eh bien, dans le judaïsme palestinien, chacun parlait, beaucoup parlaient un peu de grec. Lorsque Jésus, dans le récit de la Passion, s'entretient avec Ponce Pilate, on ne parle pas de la présence d'un interprète. C'est certainement pas Ponce Pilate qui aurait passé des centaines d'heures à apprendre l'araméen. Lorsque Jésus dialogue avec l'officier romain de Capernaum, qui lui demande de guérir son serviteur auquel il est attaché, là aussi l'entretien s'est déroulé en grec. Donc on a là effectivement une vision culturelle de Jésus, vaste. S'il sait lire, il fait partie des 5% de la population au maximum qui est lettré. Ça veut dire le soin, ça veut dire l'ambition qu'ont eu ses parents pour ce petit Jésus, Yeshua qui est l'abréviation de Yehoshua, et Yehoshua c'est Josué. En fait, le véritable nom de Jésus, c'est Josué. Mais ce nom de Josué, Yehoshua, pouvait être ramené à un diminutif, ce qui a donné Yeshua et ensuite Jésus. Voilà. Voilà quelle est la culture de ce Jésus. Donc, ce que l'on peut reconstituer de l'enfance de Jésus, de cette enfance obscure, c'est l'éducation religieuse qu'il a reçue du Père, et puis le soin que ses parents ont apporté à son éducation culturelle. Mais, il y a eu dans la vie de Jésus un événement fondamental. C'est celui-ci. Jésus se présente au baptême de Jean le baptiseur, en l'an 28. Il a environ 35 ans. Les évangiles le disent, Marc, Matthieu et Luc. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Et ce baptême d'un homme de 35 ans montre effectivement que Jésus a eu dans sa vie un tournant religieux. Oui, une conversion religieuse extrêmement forte. Jean le baptiseur, c'était ce prophète hirsute du désert, un prophète hirsute qui, dans le désert, annonce la venue du Messie. Le Messie qu'annonce Jean le baptiseur, c'est celui qui va terrasser les impies, qui va anéantir les pécheurs. Et il ne restera d'Israël que les élus, les pieux, les saints, qui seront rassemblés dans un Israël restauré, auquel le Messie rendra son pouvoir sur la terre. Le Messie qu'annonce Jésus, qu'annonce Jean le baptiseur, c'est un Messie d'abord destructeur du mal et de tous les artisans de mal pour rassembler les élus. Jean le baptiseur, c'est un prophète de malheur. Mais Jean ne vient pas que dire ça. Jean vient dire, vous pouvez être sauvés. Vous pouvez être sauvés à une condition. C'est d'entrer dans une vie de piété et de justice, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, une vie de piété et de justice, et demander le baptême. Voilà ce que dit Flavius Joseph, l'historien juif. Hérode avait tué Jean, bien qu'il ait été un homme de bien, qui exhortait les Juifs à se comporter avec vertu et justice entre eux et à être pieux à l'égard de Dieu pour venir recevoir le baptême. Donc il s'agissait de se convertir à la prédication de Jean le baptiseur pour recevoir le baptême. Pas comme aujourd'hui, j'entends, aujourd'hui oui, si on veut par exemple faire baptiser son enfant, il y a une formation, une initiation au baptême. Mais pour Jean le baptiseur, il faut se convertir à une vie de piété et de justice. L'évangile de Luc dit « Jean vint dans toute la région du Jourdain proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Et il disait aux foules, « Engeance de vipère, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient, produisez donc des fruits qui témoignent de votre conviction. » Ça veut dire que Jésus s'est converti à la prédication de ce prophète. C'est le grand bouleversement dans sa vie religieuse. Et non seulement il s'est converti, mais il a demandé le baptême. Et comme je le montrais tout à l'heure, l'évangile de Jean nous dit qu'il a baptisé au nom de Jean. Mais le moment du baptême fut un moment très important. Voilà ce que dit l'évangile de Marc. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vint une voix, « Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Jésus vit les cieux se déchirer. C'est donc pas un spectacle en technicolor. Jésus a eu une vision, lui, et une vision mystique. Et dans cette vision mystique, l'Esprit descend comme une colombe et des cieux une voix, « Tu es mon fils bien-aimé. » Ça veut dire que le baptême de Jésus par Jean le baptiseur, a été pour Jésus un événement mystique d'une très grande force, puisqu'il l'a installé et l'a confirmé dans le statut de fils de Dieu, c'est-à-dire l'icône de Dieu, celui dont la voix est la voix même de Dieu, celui dont l'agir est l'agir même de Dieu. Cette confirmation, Jésus la reçoit au baptême de Jean. C'est dire l'importance de cet événement pour lui. Et donc, Jean fut le mentor spirituel de Jésus. Et c'est vrai que dans la tradition chrétienne, Jean le baptiseur, que nous connaissons comme le précurseur, c'est ce qui va devenir dans les évangiles, le précurseur, celui qui annonce Jésus, en fait, fut d'abord son mentor spirituel. Mais, oui, encore une fois, il fut son mentor spirituel. Vous ne trouvez pas dans les évangiles une critique, quelle qu'elle soit, à l'égard de Jean. Au contraire, Jésus dit de Jean, il y a ici plus qu'un prophète. Plus qu'un prophète. Et il y a donc quatre ruptures entre Jésus et Jean. C'est-à-dire que Jésus, effectivement, va être marqué par Jean le baptiseur, mais quatre ruptures. La première rupture, c'est que Jésus n'annonce pas un Dieu de colère, mais un Dieu de grâce. Le Dieu de Jésus, le Dieu dont Jésus a fait l'expérience, c'est le Dieu de l'accueil. C'est le Dieu non discriminant. C'est le Dieu qui accueille tous ceux qui composent la société juive, qu'ils soient marginaux ou pas. Sans faire de différence et sans faire de discrimination. C'est le Dieu de la grâce et de l'accueil gratuit. On a là un renversement fondamental par rapport à la prédication de Jean le baptiseur. Jésus va se livrer à une activité de guérison. Jean le baptiseur ne guérit pas. Jean proclame la venue du Messie et précipite la décision de conversion. Jésus, lui, ouvre dans le présent la pratique de la grâce de Dieu, et la pratique de la grâce de Dieu, c'est une compassion qui délivre l'humain de ses souffrances. Jésus ne pratique pas l'ascétisme. De Jean le baptiseur, les évangiles disent qu'il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. En fait, c'était la ration de survie des nomades dans le désert. Jean est un ascète. Jésus, lui, va accueillir à sa table, faire festin avec tous ceux auxquels il veut communiquer la présence et l'accueil du Dieu de la grâce. Et ce qu'on a reproché à Jésus, c'est d'être plutôt un glouton. Jésus, les pharisiens lui disaient, celui-ci mange avec les femmes de mauvaise vie et avec les prostituées et les collecteurs d'impôts. Tous ces gens, encore une fois, marginalisés, auxquels Jésus tient à manifester concrètement la grâce de Dieu. Et puis, pour Jésus, le règne de Dieu n'est pas à venir, mais il est déjà présent. Il est déjà présent. Comment ? C'est ce que je vais essayer de vous montrer. C'est ma troisième question. Quel était le cœur du message de Jésus ? J'ai essayé jusqu'à maintenant de dresser un portrait de ce Jésus humain, marqué, on peut le dire, marqué par une naissance irrégulière, mais qui va faire de cette irrégularité une force, puisqu'il va accueillir l'ensemble de la société juive et lui proclamer de la part de Dieu une grâce qui ne discrimine pas. Et puis, dans la vie religieuse de Jésus, Jésus est un juif. Jésus est un juif à 100%. Il n'y a rien en Jésus qui ne fût pas juif. Et c'est d'ailleurs la particularité du christianisme, qui est le seul des trois grands monothéismes à avoir en son fondement un homme qui n'appartient pas à la religion que son mouvement a générée après lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la haine séculaire et historique des chrétiens ou la méfiance ou l'antisémitisme des chrétiens à l'égard du peuple juif est un non-sens. C'est non seulement une faute morale gravissime, mais c'est une faute religieuse. Car c'est au fond renier ce qui est à son fondement même. Donc dans la vie religieuse de Jésus, 100% juif, à la fois l'insertion dans la pratique de la judaïté et en même temps une conversion à la prédication de Jean le baptiseur, et dans cette conversion, Jésus va recevoir et poursuivre cette annonce d'un royaume de Dieu, d'un règne de Dieu qui vient de manière proche. Pas comme un prophète de malheur, mais comme l'annonciateur d'un Dieu de grâce. Car au cœur du message de Jésus, on retrouve ce qui faisait le noyau même de la prédication de Jean le Baptiseur, et c'est la proximité du règne de Dieu. Le règne de Dieu, Malkout HaShamayim, le royaume des cieux, c'est une antique espérance. C'est une antique espérance qui remonte aux prophètes, qui va s'intensifier à partir de l'exil. À partir de l'exil, au fond, les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, vont annoncer un horizon de l'histoire où Dieu va venir restaurer la grandeur d'Israël et surtout le délivrer du mal et de ses souffrances. C'est l'antique espérance qui est celle d'Israël. Et cette antique espérance, au temps de Jésus, a développé, s'est inscrite dans une véritable fièvre populaire. les pharisiens étaient les grands transmetteurs, les grands influenceurs religieux dans le peuple, et ces influenceurs pharisiens mettaient justement en avant cette attente du jour où Dieu reviendrait soigner les blessures de son peuple. Cette attente du règne de Dieu, du Malkout HaShamayim, n'allait pas effectivement sans une petite coloration de revanche. De revanche parce que l'humiliation d'Israël, dont la Terre Sainte était foulée par les impies qui étaient les Romains, l'humiliation d'Israël qui avait perdu toute entité, tout pouvoir politique, allait trouver une occasion de compensation et de revanche dans ce qui serait l'instauration du droit de Dieu sur la terre. Et je vous ai ici, tout le monde arrive à lire? Pas tout à fait? Allez, je vous le lis. Alors sur toute la création, son règne sera manifesté. Alors s'en sera fait du diable et de la tristesse avec lui. Car de son trône royal se lèvera le céleste, et il sortira de sa demeure sainte, enflammé de colère en faveur de ses fils. Et la terre tremblera jusqu'à ses extrémités, elle sera ébranlée, car il se lèvera, le Dieu très haut, seul éternel. Et il apparaîtra pour châtier les nations et détruira toutes leurs idoles. Alors, Israël, heureux seras-tu. Voilà. L'assomption de Moïse en Église juive à peu près du tournant de l'ère chrétienne, qui montre bien qu'on attend un royaume que Dieu va installer avec force et avec un Messie, comme celui qu'annonce Jean le Baptiseur, le Messie de force, qui extermine le mal et les malfaiteurs et récompense les élus. Ou bien, une partie des Shomoné Esré, la prière des 18 bénédictions, qui est une prière que dans l'Antiquité, les Juifs prononçaient chaque jour. Fais retentir la grande trompette pour notre libération. Élève la bannière pour rassembler nos exilés. Rassemble-nous des quatre coins de la terre. Béni es-tu, Seigneur, qui rassemble les dispersés de son peuple Israël. Donc cette attente fébrile du moment où Dieu viendra imposer sur la terre non seulement son autorité, non seulement son pouvoir, mais rétablira les conditions de la vie des humains dans la création, où le mal n'assaillira pas quotidiennement les croyants, où la maladie et la souffrance ne sera plus. Voilà la grande espérance que depuis l'exil, 6e siècle avant Jésus-Christ, les croyants juifs répètent dans leurs prières, dans leurs supplications. Elle nourrit la foi juive et elle s'est particulièrement exacerbée au 1er siècle, au temps de Jésus. Jésus va parler aussi du royaume, mais d'une manière très différente. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 4. À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Ou par quelle parabole allons-nous le représenter? C'est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais quand on l'a semée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères. Elle pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Voilà le grand arbre. Et Israël, au temps de Jésus, attend le royaume comme ce grand arbre dans lequel les oiseaux du ciel vont faire leur nid. Ça veut dire tous les juifs de la diaspora viendront se réfugier dans les branches de ce grand arbre. Mais voyez que Jésus en parle différemment. Il dit, Jésus, c'est la plus petite semence. Le grain de moutarde. On a retrouvé dans le Talmud cet exemple du grain de moutarde. C'était à l'époque de Jésus la plus petite semence que l'on connaissait, la plus petite graine. Et on disait proverbialement, petit comme un grain de moutarde. Jésus dit dans sa parabole, le règne de Dieu, c'est comme un grain de moutarde. Il pousse de l'herbe, il grandit et il vient là. Mais pas un rabbin n'aurait osé dire ça. Le règne de Dieu, c'est pas minuscule. Non, c'est le grand arbre, le règne de Dieu, venu dans sa splendeur et sa magnificence. C'est surtout pas une petite graine beige que l'on enfouit dans la terre. Et voilà au fond que Jésus dit oui, dans le futur, le règne de Dieu sera un grand arbre. Dans le futur. Mais aujourd'hui, il est présent comme une petite graine. Il est présent dans les petits commencements. Voilà ce que Jésus vient dire, un règne présent dans les petits commencements. Si vous voulez, Jésus dit, mais cessez de voir le règne de Dieu dans vos visions futuristes, comme quelque chose qui viendra, mais dont le présent est privé. Jésus dit non, ce règne de Dieu, il est présent dans les petits commencements. Et que sont ces petits commencements? Ben, c'est ce qui se passe autour de Jésus. Une poignée d'hommes et de femmes, disciples, qui le suivent, qui écoutent son enseignement, et qui retrouvent la proximité avec Dieu. Car au cœur du message de Jésus, il y a cette proximité du règne de Dieu qui signifie la proximité de Dieu. Et cette proximité de Dieu, elle va se manifester aussi dans la prière, puisque la prière que Jésus apprend à ses disciples commence par « Notre Père », et on pourrait même traduire le « Abba » araméen par « Papa », « Notre Papa qui est aux cieux ». Jamais dans la liturgie juive, on n'oserait s'adresser à Dieu dans des termes aussi familiers et intimes. On peut dire au fond que la grande force de Jésus, c'est d'avoir rapproché Dieu du monde et de l'humain. Cessez d'en faire un Dieu souverain perdu au ciel. Et cessez faire du règne de Dieu une entité futuriste. Ce règne, il est proche. Il faut simplement avoir les bonnes lunettes. Et les bonnes lunettes, ce sont celles qui permettent de percevoir la présence du règne dans le présent. La présence du règne, encore une fois, dans ces petits commencements que sont la poignée d'hommes et de femmes rassemblés autour de Jésus, qui écoutent son enseignement, qui partagent et expérimentent cette proximité, dont les souffrances sont supprimées, des malades qui retrouvent leur dignité, des marginaux à qui Jésus dit « Dieu est proche de toi tout autant que de tous les autres, de ceux qui te taxent d'impur. » Il est là le règne de Dieu. Il est proche ou il n'est pas. C'est dans le futur qu'il arrive dans sa plénitude. Et là encore, c'est au fond du jamais entendu dans le judaïsme du second temps. L'avenue du règne de Dieu dans sa magnificence, oui. La présence du règne dans ces petits commencements, dans ces gestes de pardon, dans ces paroles de bienveillance, dans ces initiatives de réconciliation, tout le programme du sermon sur la montagne. Quand vous lisez sur le sermon sur la montagne, de grâce, ne le lisez pas comme un règlement moral, non. Le sermon sur la montagne, c'est l'offre de faire surgir dans le présent la trace, le signe, l'empreinte du règne de Dieu. Et le message de Jésus, c'est rien moins que cela. Et c'est pourquoi Jésus va être le guérisseur des corps. Comme je l'ai dit, à la grande différence de Jean le Baptiseur. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Jésus parle là de ses miracles et notamment de ses guérisons d'exorcisme où il chasse les démons. Il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je les chasse, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Jésus ne fut pas le seul guérisseur de l'Antiquité. Et puis il y avait en Israël des rabbis guérisseurs dont nous parle le Talmud. Mais Jésus est le seul à dire, quand bien même il fut un guérisseur à succès, mais Jésus est le seul à dire, quand un malade retrouve sa santé, quand il retrouve son bien-être devant Dieu et dans son corps, alors c'est le règne, c'est un signe du règne qui vient de lui parvenir. Et lorsque les disciples rentrent d'avoir été envoyés en mission par Jésus et qu'ils racontent les guérisons qu'ils ont faites, Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair ». Donc Jésus est capable d'opérer cette lecture religieuse, de la guérison ou de l'exorcisme en le configurant dans cette proximité du règne de Dieu. Un exorcisme qui est le lieu de la victoire contre les forces du mal. J'arrive à mon dernier point. Pourquoi Jésus fut-il mis à mort ? Et nous allons terminer ainsi. Non, je vais passer plus loin, excusez-moi. Voilà, alors, Jésus va entrer à Jérusalem. Il va entrer à Jérusalem, voilà ce qu'on appelle l'événement des rameaux, une sorte d'ovation messianique, dont le gratifie à la fois les disciples et les foules. Mais cette ovation messianique va laisser place assez rapidement à un événement que vous reconnaissez peut-être ici. Il est un peu sombre, si vous arrivez à le reconnaître.
Les marcheurs du temple.
Oui, Jésus qui chasse les voleurs du temple. Jésus qui chasse, c'est une image du Gréco, Jésus qui chasse les voleurs du temple. Entrant dans le temple, Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il ne laissait personne traverser le temple en pensant quoi que ce soit. Et il les enseignait et leur disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Jésus se trouve dans l'enceinte la plus extérieure, qu'on appelle le parvis des païens, après des enceintes plus intérieures, il y a le parvis d'Israël, le parvis des femmes, où les femmes sont autorisées, puis le parvis d'Israël, où seuls les hommes sont autorisés, puis le saint, l'espace du temple et le saint des saints, où seul entre le grand prêtre. De manière concentrique, au fond, des zones différenciée dans ceux qui sont admis, et dans le parvis des païens, les païens comme les juifs sont admis. Et que se passe-t-il dans ce parvis? Eh bien, les juifs qui se rendent au temple changent leur monnaie romaine, qui est une monnaie impure, contre le shekel, qui leur permet de verser leur impôt au temple, le demi-shekel, et d'acheter des animaux pour les sacrifices qu'ils vont offrir au temple. Sacrifice de reconnaissance ou sacrifice d'expiation de leurs péchés. Et voilà que Jésus balaye ces tables d'échangeurs et des vendeurs d'animaux de sacrifice. C'est un événement qui a choqué. L'incendie de Notre-Dame a bouleversé le monde entier, croyant ou non croyant. Le temple de Jérusalem s'est un lieu encore plus sacré que ne peut l'être au XXIe siècle Notre-Dame de Paris. Parce que le temple de Jérusalem, c'est la résidence de Dieu, dont le Saint des Saints. C'est la garantie de la protection de Dieu envers son peuple. Donc, toucher le temple, provoquer ce scandale, c'est quelque chose d'inadmissible. Et Jésus a franchi là la ligne rouge. C'est pourquoi, raconte l'évangéliste Marc, les grands prêtres et les scribes l'apprirent et ils cherchaient comment ils le feraient périr, car ils le redoutaient, parce que la foule était frappée de son enseignement. Donc Jésus a de l'influence, il est considéré comme d'autant plus dangereux par les Sadducéens, qui sont les gardiens du temple. Le grand prêtre faisait partie du parti sadducéen. Comment peut-on comprendre ce geste de Jésus, qui a fait problème d'ailleurs pour les premiers chrétiens, qui eux se rendaient au temple pour la prière. Ils continuaient à se rendre au temple pour la prière. Comment comprendre la violence de Jésus à l'égard du temple? Alors, l'évangéliste cite cette phrase de Jérémie, vous en avez fait une caverne de bandits. Et ce que l'on comprend souvent, c'est que Jésus aurait protesté contre une sorte de commercialisation du culte. Hein. On parle toujours, encore aujourd'hui, des marchands du temple. Hein. Il aurait protesté contre la commercialisation du culte et aurait voulu ramener le culte à une sorte de pureté. C'est une explication possible, mais je pense que, en fait, si l'on s'interroge sur ce qu'a voulu Jésus au cœur même de son message, il faut aller chercher l'explication plus profondément. Qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? C'est le parvis des païens. C'est pas n'importe où, hein. Le parvis des païens est le lieu où les croyants juifs achètent le droit d'accéder à Dieu. Ils échangent leur monnaie, ils achètent des animaux pour pouvoir entrer dans le temple et se manifester à proximité de Dieu. Le parvis des païens, c'est une sorte de sas où l'on se débarrasse de son impureté pour pouvoir entrer dans les enceintes successives réservées aux femmes ou aux hommes. On se lave de sa souillure, on se lave de son impureté pour pouvoir se présenter à Dieu. Et voilà, à mon sens, quelle est la signification de ce geste de violence. Jésus casse les barrières que la religion de son temps, que le judaïsme de son temps avait placées et qui situait Dieu à distance des hommes et des femmes. Je vous l'ai dit, et j'ai essayé de vous le dire plusieurs fois, la plus grande force de Jésus, c'est de mettre en avant un Dieu proche. Or, le parvis des païens parle du principe que Dieu est éloigné et qu'il faut acheter sa pureté pour pouvoir le retrouver, franchir cette distance qui nous sépare de lui. Et pour Jésus, il n'y a pas de distance. Ou plus exactement, pour Jésus, la distance, c'est Dieu qui l'a franchie par une grâce gratuite qui ne discrimine pas. Alors de la même manière qu'au grand scandale des pieux, Jésus admettait les malades, les femmes dites de mauvaise vie, les collaborateurs des Romains, en leur disant « Mais Dieu vous accueille, vous n'êtes pas impurs devant lui. Vous êtes tous purs, car vous êtes tous au bénéfice de la grâce. » Bien, de la même manière, Jésus va protester contre cette structure construite autour du temple de Jérusalem qui éloigne Dieu des humains. Non, c'est le Dieu proche. C'est le Dieu proche. Je l'ai dit, Jésus a franchi la ligne rouge. Alors, les événements vont s'enchaîner rapidement. Voilà dans ce tableau de Dali, la dernière scène. Jésus arrêté. Et vous avez peut-être en mémoire cette scène de la condamnation de Jésus au Sanhédrin. Le grand prêtre lui dit à Jésus, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es toi le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu le dis. Seulement je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre le blasphème, quel est votre avis ?» Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Vous venez d'entendre le blasphème, c'est quoi le blasphème? Tu es le Messie, le Fils de Dieu. À quoi Jésus répond, tu le dis. Ce qu'on peut comprendre de différentes manières. Hein? Tu le dis, oui, ou c'est toi qui le dis, c'est pas moi, c'est toi. C'est toi qui le dis. Le problème, c'est que lorsque l'historien lit ce récit, ils toussent. Et pourquoi est-ce qu'ils toussent, l'historien? C'est que se proclamer Messie n'a jamais été considéré comme un délit mortel dans le judaïsme. Jamais, jamais, jamais. L'historien juif Flavius Joseph, qui nous raconte la vie du judaïsme au premier siècle, parle de nombreux hommes qui se lèvent, qui se proclament Messie, qui entraînent derrière eux une foule d'adeptes. Ils se feront tous massacrer par les légions romaines. Et durant la deuxième guerre juive, autour de 135, Simon Bar Kokhba, le chef des insurgés, va être proclamé Messie, fils des étoiles, par Rabbi Akiba, qui était le rabbin le plus célèbre de l'époque. Jamais il n'a été maudit comme rabbin. Pourquoi est-ce que Jésus, lui, serait coupable de mort parce que il est dit Messie, fils de Dieu? Et c'est là qu'il faut avoir un regard fin. Non, Jésus au Sanhédrin a été condamné sous la conduite des Sadducéens parce que il avait attenté au temple avec une vision de Dieu qui n'était pas la vision des Sadducéens. Mais pourquoi alors cette focalisation sur le terme de Messie? Eh bien parce que pour condamner à mort, il fallait passer par l'autorité romaine. Ponce Pilate, seul habilité à prononcer une peine de mort. Mais pour Ponce Pilate, déclarer que Jésus est un faux prophète, ça ne l'intéresse strictement pas. En revanche, dire que ce faux prophète s'affiche comme Messie, c'est inquiéter immédiatement le pouvoir romain, qui craint des troubles publics et qui craint que ce Messie emporte les foules contre les légions romaines. Donc, si vous voulez, le titre de Messie n'était pas un délit pour la foi juive, mais il était un délit mortel pour les Romains. Donc, le Sanhédrin ici trouve un délit, je dirais, romano-compatible. Romano-compatible. C'est-à-dire un crime qui pouvait être compris politiquement. Donc, au fond, on se rend compte ceci, c'est que Jésus, effectivement, a été victime d'un procès religieux de la part des Sadducéens, le motif le plus évident, celui dont les évangélistes nous disent « après cela, le parti sadducéen décide sa mort », c'est l'attentat au temple, et que le procès politique qui va se jouer face à Ponce Pilate, c'est l'accusé de messianisme avec la dimension politique que cela comporte pour les Romains. Et voilà pourquoi le Titulus de la croix va en trois langues, latin, grec et hébreu, dit l'évangéliste Jean, condamner Jésus comme roi des Juifs, c'est-à-dire comme Messie. Voilà. Je m'arrête ici sur ce quatrième point, cette quatrième question, c'est pourquoi Jésus fut-il mis à mort. Je vous remercie de votre attention.